dans le forum avec Tony Marinaro, on se branche à Habs Radio.
On est de retour, 11h15. On est en retard sur notre segment Habs Radio d'environ vingtaine de minutes. Je m'excuse, mais à un moment donné, je pense que la conversation était très intéressante, puis on pouvait pas arrêter là. Puis, écoute, c'était tellement intéressant. Je me demande si un segment sur le hockey mineur, à un moment donné, ou le sport amateur, c'est quelque chose dont on devrait peut-être en parler un peu plus.
Tony, quand l'an dernier, quand on faisait les gérants d'estrade avec Max Lalonde, de 9h à midi, ici sur les ondes, on s'était donné comme mandat de parler le plus possible de hockey mineur ou de ce genre de situation-là. Les lignes étaient toujours pleines. Des situations à dénoncer, il y en a à n'en plus finir. Puis j'ai hâte tantôt d'en reparler avec toi parce qu'on avait un bon débat hors des ondes. Tu m'as dit « Arrête de parler hors des ondes! »
Non, c'est juste que...
Il y a trop de situations.
On en a parlé en dehors des ondes.
Ouais.
Et tu faisais d'excellents points.
Ouais.
Et t'en ajoutais.
Mais tu vas tout le revoir tantôt, ça.
Alex, la radio, là...
Je sais, c'est
you don't
moment,
blow
là.
Your load mais off
c'est
air.
C'est toi qui m'a pompé, là. Qui m'a parti, là.
La radio, là, tu gardes tes émotions et tes meilleurs moments pour la radio, si pas
savais,
à l'extérieur des autres. Moi, je t'ai
si
regardé.
Tu savais
j'ai
comment
dit,
moi je vais avoir d'émotions tantôt.
Ah ouais, attends, tellement, ouais. Je t'ai regardé et j'ai dit Alex, arrête de parler là gars, parce qu'il faut que tu sauves ça pour les autres.
Un gars qui va avoir de l'émotion si tu y parles pas, c'est Simon Boisvert.
Lui, c'est quelque chose, là. Comment ça va, Snake?
Ça va bien, toi, Tony? Je suis en train de m'endormir.
Ça va très, très bien. T'étais en train de t'endormir. Pourquoi? Le sport amateur, t'aimes pas ça? Le hockey amateur, t'aimes pas ça?
Ben non, mais ça fait 17 minutes que j'attends mon segment.
Mais je comprends, mais moi, j'ai déjà regardé tes films de 80 minutes, puis pendant 80 minutes, moi, je dormais aussi.
OK. Fair enough.
It's a joke. En passant, j'ai vu quelques extraits de tes films. T'es quelque chose. T'es un acteur, toi, hein?
Pas tant que ça.
Non. T'as du talent, mon chum. T'as du talent.
Hey, ouais, merci Tony, mais pas tant que ça.
Non. Écoute, don't underestimate yourself. Un victoire, c'est un victoire. Puis c'est ça que ça compte. Quand tu perds 5 de suite, des fois, c'est pas facile de gagner ton match. Mais dès le moment que tu le gagnes, les choses peuvent se débloquer. Peut-être on va avoir la réponse ce soir à Los Angeles, mais qu'est-ce que tu as vu dans cette victoire-là des Canadiens hier soir?
Ben moi, ce que j'ai vu, c'est qu'ils ont eu de la misère à battre la pire équipe de la Ligue. Puis ils ont vraiment, vraiment pas dominé. Là. Alors, tu sais, ce qu'on voit du Canadien depuis à peu près 2 semaines, c'est pas mal le genre de saison à laquelle on s'attendait, à part la fameuse séquence là, du mois de janvier. Non?
C'est sûr que hier, j'ai pas été ébloui par la performance des Canadiens contre une équipe qui vient d'échanger quelques-uns de leurs bons éléments, contre une équipe qui est en pleine reconstruction, qui a des bonnes jeunes, mais qui a presque pas de profondeur, puis pas du tout. J'étais pas bien, bien impressionné. Il y en a d'autres qui vont dire, mais là, les Canadiens ont frappé 4 poteaux. C'est aussi vrai.
Ouais. Des poteaux, ça veut dire quoi? T'sais? Ça veut dire que t'es pas loin, mais t'es pas sur la cible, tu sais.
Celebrini.
Ça veut pas dire que le Canadien aurait gagné 8-3. Là.
Ouais. Celebrini, là, je sais qu'il y a encore une carrière devant lui, là, 10, 12, 14, 16, 18 ans. Là. Mais je pense qu'on peut déjà dire là, que les Sharks se sont pas trompés. Wow.
C'était difficile de prendre quelqu'un d'autre, mais si tu te rappelles, Tony, j'avais dit soit à ton podcast ou soit sur les ondes de BPM l'année passée que je prendrais Celebrini avant Connor Bedard.
C'est vrai que t'as dit ça. Puis tu sais, après avoir vu le match hier soir, pour vraiment regarder de près ses présences sur la glace, je comprends. Encore une fois, les deux ont une carrière devant eux, mais je comprends. Je pense que...
Celebrini, là, moi j'avais dit l'année passée, si tu prends l'intelligence artificielle pour fabriquer un joueur de hockey, c'est Celebrini qui va sortir de la machine. Parce que c'est un gars qui a tout.
Oui.
C'est pas Connor McDavid là, qui peut faire des jeux à pleine vitesse à 200 000 à l'heure. Là. Mais je te parle en fonction là, de l'ensemble de son jeu, en fonction de son comportement sur la glace, tout. Tu regardes Macklin Celebrini puis tu dis j'ai de la misère à croire que ce gars-là éventuellement ne sera pas le capitaine d'une équipe championne.
Bédard a un meilleur dessus du poignet. Puis je pense qu'il est un meilleur buteur.
Oui.
Je pense que l'autre célébrité est un meilleur fabricant de jeu.
Oui. Connor Bedard, ça, c'est un gars qui a un arsenal de tir absolument illégalé, là. C'est incroyable ce qu'il peut faire. Mais tu sais, c'est pas nécessairement le gars le plus rapide. C'est pas nécessairement le gars le plus fort physiquement, spécialement pour un joueur de centre. Tu sais, c'est pas le gars nécessairement qui va tirer une équipe sur ses épaules. Je crois que il est excellent. Il va faire un paquet de points. Il va faire plaisir aux pooleurs. Il va peut-être même gagner un jour si Chicago l'entoure bien. Mais je trouve pas qu'il est au niveau il est au niveau où on le considérait l'année passée. N'oublie pas, là, quand il est arrivé, Connor Bedard, là, on mentionnait son nom avec Crosby, McDavid, on parlait d'un joueur générationnel. Moi, j'ai jamais vu un joueur générationnel en lui, parce que ce qu'il faut que tu analyses dans le junior, c'est est-ce que les qualités que tu as dans le junior, est-ce qu'elles sont transposables dans la Ligue nationale? Il y en avait beaucoup qui étaient transposables, exemple, son lancer.
Oui.
Mais tout le reste, là, les petites feintes et puis le maniement du bâton et tout, tu sais, tu peux pas t'amuser dans la Ligue nationale comme tu t'amuses dans le junior. Tandis qu'un gars comme Celebrini, tu le voyais aller, je me rappelle, je suis allé le voir Boston College deux fois en personne l'année passée.
Oui.
Puis je voyais ce gars-là, puis je me disais l'accélération, la vision, la façon qu'il fabrique les jeux, ça, c'est plug and play dans la LNH. Là. Il arrive puis il joue. Et c'est exactement ça qui est arrivé. Il y a 18 ans là, seulement. C'est le plus jeune joueur de la Ligue. Puis déjà, il fait plus que bien tirer son épingle du jeu. Écoute, j'ai regardé pratiquement tous les matchs des Sharks cette année parce que j'adore leur reconstruction. Puis je trouve que, écoute, c'est... En tout cas, il est formidable ce gars-là. Puis c'est dommage qu'il ne joue pas dans l'Est. Parce que les gens ont moins l'occasion de le voir jouer là, avec les matchs qui sont tard le soir.
Ouais.
Mais ça va être dans les séries, là, à un moment donné, quand les Sharks vont faire les séries dans 3-4 ans,
ouais.
Je pense que les gens vont voir toute une machine de hockey.
On n'oublie pas que... Il y en a certains qui pensaient que Connor Bedard était peut-être plus un allié dans la Ligue nationale qu'un centre. Il était un centre dans la WHL, oui, mais il y en a plusieurs qui ont dit peut-être ses meilleurs moments dans la Ligue nationale vont venir à l'aile. Et pas au centre. Il n'y a aucun dépisteur, corrige-moi si j'ai tort, Snake. Il n'y a aucun dépisteur qui a regardé que Macklin Celebrini jouait quand il était au Boston University pour dire ce gars-là, dans l'année nationale, il va être un allié.
Parce que personne n'a dit ça.
Tellement Connor impliqué Bedard, sur 200 pieds. Hein?
Oui, puis Connor Bedard, on l'entendait souvent, ça. Puis je pense qu'éventuellement, si Chicago en vient qu'à repêcher un ou deux joueurs de centre étoile, là, parce que Chicago, ils ne sont vraiment pas sortis des bas-fonds. Je pense qu'éventuellement, ça pourrait être considéré de transposer Connor Bedard à l'aile. Ça, c'est pas impossible. Macklin Celebrini, si tu y penses même pas, c'est ton centre numéro un pour 10-12 ans.
On va, Snake, on va parler, et encore une fois, là, pour les gens qui le savent pas, là, Snake puis moi, on se connaît depuis un bout, là. Puis si tu penses qu'on se lance des jabs et des flèches en ondes, tu devrais voir ce qui se passe sur mon podcast aussi. Là. On se taquine assez fréquemment, n'est-ce pas, Snake?
Oh oui!
Ah oui! Mais-en! Et on se taquine. On sait c'est quoi la différence entre taquiner puis insulter. Puis toujours sans rancune. Snake, des nouveaux trios pour le Canadien hier. Là, Doc avec Nuuk toujours et Josh Anderson. Tandis que Patrick Laine a joué sur un trio avec Jake Evans et Joel Armia. Qu'est-ce que tu as pensé des nouveaux trios hier?
Ben, je pense qu'on tente des expériences. C'est sûr que Laine, on doit faire attention avec lui parce qu'à 5 contre 5, ça n'a pas été fameux dans les derniers matchs. Alors, on essaie de le mettre avec des joueurs différents pour essayer de le replacer. Mais, tu sais, dans le fond, quand tu regardes ça, à chaque fois qu'une équipe perd plusieurs matchs consécutifs, c'est toujours le réflexe de l'entraîneur. C'est toujours de brasser des trios. Puis finalement, ben là, les Canadiens ont gagné hier. Alors, on va revenir avec ces trios-là probablement ce soir. Mais après ça, si le Canadien perd ce soir, qu'est-ce qu'on fait? Tu sais, j'ai pas trop de... Comment je pourrais dire ça? Dans le jour après jour là, d'une saison de 82 matchs, moi, j'aime ça voir un long échantillon avant de pouvoir juger si une combinaison fonctionne ou pas. Puis dans ce cas-ci, ben, c'est simplement des changements qu'on fait au gré du temps. Puis dans deux semaines, on va peut-être avoir d'autres trios. Alors, la question, je pense, pour moi, d'ici la fin de la saison pour le Canadien, c'est beaucoup plus d'évaluer les joueurs autonomes. Qu'est-ce qu'on fait avec eux? Est-ce qu'on les garde ou est-ce qu'on les garde pas?
Oui.
Et deux, la progression des jeunes joueurs.
Si on regarde hier soir, certaines statistiques, Lane Hudson, 19-42. Sa moyenne avant le match, me semble, était presque 22 minutes et demie. Je parlais avec Pierre Maguire la semaine passée parce que, évidemment, c'est pas le même Lane Hudson depuis quelques semaines. Puis, on sait qu'une des choses, c'est que les équipes vont mieux étudier Lane Hudson après avoir pris la Ligue par surprise. Là. Mais la deuxième chose, c'est Pierre Maguire l'a dit, il dit, écoute, le gars, il n'a jamais joué plus que 40 matchs. C'est sûr que les deuxièmes 40 là, vont être beaucoup plus difficiles que les premières 40. Là. Ça arrive à tous les jeunes joueurs dont il a dit, c'est pour ça, il dit, regarde Michkov. Michkov, c'est sûr qu'il y a aussi des problèmes Tortorella puis des choses qui se passent en Philadelphie. Mais il dit, puis la même chose va arriver avec Demidov l'année prochaine. Demidov l'année prochaine, là, c'est pas parce que c'est un vedette en KHL qu'il va revenir, il va venir puis il va être un vedette à l'âge de 19 ans et demi, 20 ans à Montréal sa première année parce que à un moment donné, il va frapper un certain mur lui aussi. Tu crois-tu à ça?
Je te dirais oui et non. Je pense que c'est du cas par cas, mais c'est sûr que la théorie du nombre de matchs, oui, elle est évidente que les joueurs de hockey junior canadiens sont mieux préparés à faire face aux rigueurs de la Ligue nationale dû au fait que, tu sais, tu prends un exemple, un gars comme Caleb Desnoyers à Moncton, cette année. Je prends lui comme exemple. Il va jouer 60 matchs de saison régulière, il va aller en série, il va peut-être en jouer 20 autres, il va aller en Coupe Mémorial, il va en jouer 5-6 autres, il va avoir joué 80 quelques matchs cette année.
Mm-hmm.
Bon. Les gars de la NCAA, eux, et de l'Europe, vont en jouer une quarantaine, maximum une cinquantaine. Fait que c'est sûr qu'à un moment donné, rendus aux 50 quelques matchs du Canadien, ben, dans pour leur corps, là, qui doit s'habituer, la saison est pratiquement terminée. L'an prochain, ça va être quelque chose d'autre.
Mm-hmm.
Mais pour répondre à ta question de Demidov, tu sais, ça dépend des joueurs. Je pense que Hudson, étant donné qu'il a un plus petit physique, c'est sûr que les petits joueurs se fatiguent plus vite dans le cours d'une saison. Ça a toujours été comme ça. Demidov, je le vois moins un candidat à frapper un mur. Il peut frapper un mur à un moment donné de 5, 6, 7 matchs, mais ça, presque tous les joueurs frappent des murs de 5, 6, 7 matchs. Mais je ne pense pas que Demidov arrive à un moment donné, au mois de février, l'année prochaine, puis qu'il y ait vraiment une grosse baisse de régime. Moi, je prévois une grosse saison pour lui. Alors, c'est vraiment du cas par cas. Celebrini, l'année passée, il n'a pas joué. Tu sais, il a joué les mêmes nombres de matchs que Lane Hudson.
Mm-hmm.
Puis, il joue avec lui. Puis, regarde, il est encore très en forme. Mais Celebrini a été blessé au début de l'année.
Ouais.
Alors, ça lui a donné une douzaine de matchs de repos. Alors, est-ce qu'il va frapper un mur dans 12, 15 matchs? On verra, mais je te dirais que c'est vraiment du cas par cas, mais pour les joueurs collégiaux puis européens, c'est puis surtout les joueurs de plus petit gabarit, c'est une chose à considérer.
Le 7 mars, ça s'approche, là, la date limite des transactions. Jake Evans, Joel Armia a déjà été un joueur qui peut-être était pas dans les plans de Jeff Gorton puis de Kent Hughes. Pierre Maguire a déjà mentionné à mon podcast que quand il faisait partie de l'organisation des Sénateurs d'Ottawa, que le Canadien, dès le moment que Gorton et Hughes ont rentré, ils ont appelé les Sénateurs pour leur offrir Joel Armia dans une transaction.
Oui.
Mais cette année, Joel Armia, puis l'an passé, les derniers trois mois de la saison, l'an passé, là, Joel Armia a joué du gros hockey. Puis cette année, là, Joel Armia, encore dans un rôle, écoute, limité, il joue très, très bien. Mm. Penses-tu que le Canadien, puis Gorton et Hughes, qui n'étaient pas convaincus d'Armia il y a trois ans de ça, trois ans plus tard, vont le garder?
Moi, j'ai l'impression que oui. Parce que lorsque tu as des agents libres comme ça, sans compensation,
mm-hmm.
d'un certain âge, tu dois pondérer deux choses.
Mm-hmm.
Le retour, autrement dit, si tu l'échanges, j'obtiens quoi? Et le fait que l'an prochain, il faut que tu mettes un club sur la glace. Alors, si tu dis, on laisse aller Armia, mettons, pour un choix de troisième ou quatrième ronde, exemple, et que là, cet été, tu dois signer un joueur équivalent à Armia pour le même montant, ben pourquoi pas garder Armia? Mais si quelqu'un t'offre un choix de deux pour Armia, ben là, j'écouterais.
Ouais.
Ça dépend toujours, c'est comme Jake Evans. Jake Evans, ça dépend toujours combien il demande, combien d'années et qu'est-ce que je peux obtenir en retour. Alors, si tu me disais lequel des deux a le plus de chances d'être à Montréal l'an prochain, ben, je te disais c'est peut-être Armia.
Ah oui!
À cause de ce que je viens de te dire.
Ah oui!
Ben, parce que l'offre pour Jake Evans pourrait être plus élevée. La question est de savoir, Jake Evans, il vaut combien sur le marché?
Les Devils, ça je peux te le dire, là, mais ça a déjà été rapporté il y a couple de semaines de ça, que les Devils ont appelé le Canadien pour Jake Evans. Là. Ça, je peux confirmer ça.
Oui.
Je peux te confirmer ça de source sûre que les Devils veulent vraiment avoir Jake Evans.
OK.
De source sûre. On va voir qu'est-ce que ça va donner. Moi, je vais te dire quelque chose. Là. On n'a pas parlé encore, là, mais un joueur des Canadiens hier là, qui a pris deux mises en jeu, juste deux, là, il les a gagnés les deux. Oui. Il a eu deux lancers au but. Il y a eu deux lancers qui ont été bloqués. Il y a eu trois lancers qui ont raté la cible. Puis il y a eu trois mises en échec. Il y a juste eu 9 minutes 37 de jeu. Mais moi, là, j'ai beaucoup aimé le match de Winback hier. Là.
Il a été excellent. Ça a été son meilleur match à date parce que lors de son premier appel, on ne l'avait pas vu finalement. Il était assez discret.
Hey, il était bon, Winback, hier.
Hier, il a vraiment bien joué. Il a joué le genre de rôle auquel on s'attend de lui dans la LNH. Moi, je crois que Beck, éventuellement, va être retourné à Laval pour participer aux séries avec le Rocket.
Ça a du bon sens.
Puis on espère que le Rocket se rende le plus loin possible pour que les jeunes accumulent des matchs d'expérience. Et là, personnellement, moi, je crois qu'Owen Beck sur un quatrième trio l'année prochaine, c'est logique.
Mais Owen Beck va prendre la place de Dvorak, Snake.
Ouais, bon, ben, alors tant mieux. Tu sais, Owen Beck, là, il ne coûtera pas cher. Même si tu l'amènes au début à une dizaine de minutes par match, c'est bien correct comme ça. Puis, tu sais, ça t'évite de signer un joueur autonome. Ça t'évite de te demander est-ce que je dois garder un tel ou un tel. Tu sais, dans ton pipeline d'espoir, il faut toujours que tu amènes de l'eau au moulin. Le recruteur-chef, lui, sa job, c'est d'amener de l'eau au moulin à son directeur-gérant pour que le directeur-gérant ait le moins possible besoin de signer des joueurs autonomes ou de garder des joueurs qu'il ne veut pas garder. Alors, moi, Winbeck, je l'ai toujours vu comme ça.
Oui.
Pour moi, ce que tu as vu hier, c'est ce qu'il est. Je ne vois pas une force offensive. Il y en a qui sont bien fâchés là, quand je dis ça. Mais je trouve que pour un joueur choisi en début de deuxième ronde, si le gars peut devenir un régulier de ton bottom six pendant, je ne sais pas moi, 7-8 ans, ben, je trouve que c'est un bon choix. Alors, Beck, moi, je le vois comme ça, sauf que je ne le vois pas pivoter un troisième trio à 17-18 minutes par match puis faire 40-50 points par année. Ça, dans ma boule de cristal, je ne le vois pas. Mais je vois un joueur très utile.
En conversation avec Snake Boisvert du podcast Processus avec Mathias Brunet, qui est sorti hier, ça sort tous les mardis. Vous avez parlé de quoi?
On a parlé de la hausse du plafond salarial et de l'impact que ça va avoir sur la feuille de paye du Canadien. Alors, on a passé un petit peu là, position par position, et puis année par année, qu'est-ce que ça peut donner, les joueurs sous contrat?
J'ai hâte d'entendre ça, Snake. Vas-y.
Oui, on a parlé également de toutes les transactions qui ont eu lieu la semaine passée. On a parlé de l'avenir du Wild du Minnesota. Puis, il ne faut pas oublier, vendredi,
oui.
Sur YouTube, le podcast, l'entrevue avec Kent Hughes va être disponible pour tout le monde sur toutes les plateformes.
Et j'ai tellement hâte de regarder cette conversation-là que vous avez eue avec Kent Hughes. On va le faire vendredi. Puis, j'ai hâte d'entendre ta conversation sur le plafond, sur la masse salariale qui va monter aussi parce que il y en a plusieurs qui se disent, mais les Canadiens sont en voiture. Ils ont déjà signé beaucoup de leurs jeunes joueurs, dont il va avoir beaucoup d'argent pour d'autres. Par contre, on n'oublie pas, là, le dollar canadien en arrache. Le dollar américain est fort. Les revenus pour le Canadien rentrent en canadien. Puis les dépenses, puis les payes, il faut qu'ils sortent en américain. Donc, oui, le Canadien peut dépenser beaucoup plus. Mais si jamais les revenus ne rentrent pas, peut-être ils ne voudront pas le faire. Ben, je ne pense pas que le Canadien manque d'argent. Là. C'est un club qui a acheté avec l'Arena pour 575 millions de dollars. Là, puis aujourd'hui, ça vaut 2 milliards. Là.
Ouais. Je pense que si le Canadien est en position de prétendre à la Coupe Stanley puis que le plafond est de 113 millions, je pense qu'ils vont s'approcher du plafond. Par contre, il ne faut pas que tu signes des joueurs. Il
oui.
ne faut pas que tu donnes des mauvais contrats juste parce que le plafond est plus élevé. Et ça, on en discute dans le podcast, c'est le risque avec certains directeurs gérants. Ah, le plafond monte, donc on peut se tromper. Non, tu peux pas te tromper quand non. même. C'est ça.
Je sais que tu n'es pas le président du fan club de Logan Mayhew, mais est-ce que tu le mettrais ce soir à la place d'un David Savard qui va jouer 3 matchs en 3 jours et demi?
Moi, je pense que le Canadien...
Ou 4 jours et demi, je ne sais même pas. Là, dimanche après-midi, mardi.
Il doit donner des essais à des joueurs. Là, on va oublier ça, les séries, j'espère. Là. Puis je pense que là, avec le nombre de points qui sont en arrière et les clubs qui doivent rattraper, je pense que le moment est venu de donner des essais. Alors oui, je serais d'accord pour jouer, donner des matchs à Mayhew d'ici la fin de la saison puis voir un petit peu ce qu'il y a dans le corps. Quitte à ce qu'il joue comme Logan Mayhew joue en début de saison, c'est-à-dire pas très bien.
Hey, tout le monde t'appelle le Snake. Moi, je t'appelle Ouserpent. Puis je t'aime beaucoup. Ivan Demidov qui a fait l'histoire, là. Ivan Demidov qui a fait l'histoire, le plus de points pour un jeune moins de 20 ans dans la KHL. Quelque chose, hein?
Ça va être quelque chose l'année prochaine. Dès l'année prochaine, au Centre Bell, je pense que ça ne sera pas long qu'il va valoir le prix du billet.
Il passe Kirill Kaprizov, qui était détenteur de ce record-là avant ça. Merci beaucoup, Snake. Je t'apprécie.
Salut,
puis on va regarder ça processus plus tard aujourd'hui. Puis vendredi, ça sort sa conversation. Lui, Mathias Brunet et le directeur général des Canadiens de Montréal, Kent Hughes. Snake Boisvert, tous les mercredis dans notre segment Abs Radio. Salut, Snake. Bye-bye.
Salut.
Le voilà.